Agora, le magazine de la rédaction en partenariat avec Maxentre. Et c'est aujourd'hui Frédéric Sabourin qui est au micro. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Émission politique aujourd'hui puisque nous recevons Caroline Janvier, députée de La République En Marche dans la deuxième circonscription du Loiret. Caroline Janvier, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors nous reviendrons bien sûr sur votre rentrée parlementaire, les sujets sur lesquels vous travaillez au sein de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée. Vous nous direz ce que vous avez pensé de la prestation du Premier ministre Édouard Philippe hier soir sur France 2 dans l'émission politique. Et enfin nous évoquerons les municipales à Orléans suite aux sévères critiques que vous avez adressées dans la presse au maire actuel Olivier Carré. Caroline Janvier, avant de vous demander ce que vous avez pensé de l'émission politique hier soir, comment s'est passée pour vous la rentrée parlementaire ? C'est vrai que pour la majorité, c'est un petit peu difficile. Baisse de popularité, affaire Benalla et j'en passe.
Alors, nous sommes au travail et effectivement, nous avons, je crois, encore plus que l'année dernière, la volonté de dépasser ces polémiques sur les petites phrases pour vraiment montrer que nous travaillons sur des réformes très concrètes qui vont avoir un impact très concret sur le quotidien des Français. Et je crois qu'on a effectivement pas beaucoup d'énergie à dépenser sur tout ce qu'il y a pu avoir sur un certain nombre de polémiques qui sont, à mon sens, instrumentalisées par l'opposition.
On en fait trop sur l'affaire Benalla ?
Oui, je crois vraiment. Je crois qu'on en fait trop sur l'affaire Benalla. Je crois qu'on en fait trop sur les polémiques des petites phrases, notamment du président et d'autres. Agnès Buzyn l'a dit très récemment dans un article du Monde.
Ministre de la Santé.
Voilà. Elle a rappelé toutes les avancées et toutes les stratégies qui étaient mises en place. Le plan pauvreté, le plan santé. Nous allons maintenant travailler sur la réforme des retraites, de l'assurance chômage. Et je crois qu'il est vraiment important que nous nous intéressions à ces réformes, à ces enjeux, plus qu'à des polémiques qui ne feront pas date et dont personne ne se souviendra dans 5 ans.
Frédéric Sabourin.
Alors, il y avait à Marseille ces jours derniers un congrès, le congrès des régions. Les associations regroupant les collectivités locales ont lancé un appel, l'appel de Marseille. Il faut en finir avec les coupes budgétaires brutales, demande-t-il. Et alors, Édouard Philippe, le Premier ministre, a lui aussi lancé son appel de Marseille, celui d'une décentralisation qui accepte la franchise et l'amitié, l'amitié qui crée le lien et la franchise qui autorise à se dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, le Premier ministre a appelé les régions, les départements et les communes à renouer le dialogue, mais sans rien lâcher. Il est resté droit dans ses bottes, et ce qui n'a pas manqué d'entraîner des frustrations, notamment d'Hervé Morin, le président des régions, on l'a entendu. Certains disent que l'exécutif ne mesure pas l'ampleur de la fronde. Alors, Caroline Janvier, vous êtes à la fois une élue locale, certes pas directement dans une collectivité locale, mais vous arpentez le terrain, vous devez rencontrer ces élus territoriaux qui sont en colère. Et en même temps, comme on dit, vous êtes de l'exécutif, ou presque, puisque de la part de votre mandat parlementaire, vous y participez. Est-ce que vous l'entendez, vous, cette fronde des élus locaux qui monte, oui ou non ?
Oui et non. Si vous voulez, effectivement, je rencontre et je travaille beaucoup avec les élus locaux, qu'ils soient maires de petites communes de quelques centaines d'habitants ou de grosses villes de plus de 10 000. Et si vous voulez, pour moi, il y a deux choses. Sur le plan budgétaire, je ne comprends pas, et je crois même qu'il s'agit presque de malhonnêteté intellectuelle, de dire qu'il y a des coupes budgétaires. Ce n'est pas le cas. Nous avons, pour la première fois depuis 10 ans, maintenu l'enveloppe de dotation aux collectivités. Et si vous voulez, moi j'ai regardé ça de très près pour les 39 communes de la deuxième circonscription, il y a un maintien de ces dotations. Alors après, il y a des arbitrages, il y a beaucoup de paramètres, donc dans certains cas, il peut y avoir un gain pour, par exemple, des métropoles, alors que la dotation pour les ruralités va pouvoir diminuer pour d'autres. Mais de façon globale, l'enveloppe globale est maintenue. Donc cette critique d'une coupe budgétaire, elle me semble tout à fait insincère et illégitime. En revanche, ce que j'ai entendu et ce sur quoi je crois qu'il faut effectivement qu'on travaille, c'est un sentiment, et quand c'est un sentiment, c'est difficile à objectiver, de manque d'écoute dans l'approche, dans la façon dont on met en œuvre un certain nombre de réformes, comme par exemple celle des 80 km/h. Et je crois qu'effectivement, il y a un vrai enjeu de maintenir un dialogue constant et de travail co-construit. Mais il faut de l'honnêteté des deux côtés. Voilà.
Vous êtes tiraillé, vous, entre justement un président de la République qu'on dit un peu isolé, un Édouard Philippe qui va au charbon, qui essaye de faire le lien entre les parlementaires, les collectivités, le peuple, et puis ce président qui, comme tous les présidents de la République, devient de plus en plus élyséen. Enfin, c'est fatal. Vous situez-vous par rapport à ça? Parce que justement, vous allez sur le terrain. Est-ce que, enfin, faut dire les choses clairement. Est-ce que vous faites engueuler quand vous allez sur le terrain? Et comment est-ce que vous pouvez en même temps, excusez-moi de reprendre l'expression, mais enfin, elle vient des marcheurs, être partie prenante de cette politique gouvernementale?
Alors,
ça doit vous réveiller la nuit un peu quand même de temps en temps.
Oui, mais si vous voulez, nous, on nous demande au contraire d'aller sur le terrain. C'est ce qui, je crois que c'est même l'essence de notre fonction, que de écouter le terrain, remonter auprès de l'exécutif ce que l'on entend du terrain, et une fois qu'on a avancé sur les réformes, faire un travail de pédagogie, d'explication et même de déclinaison des politiques publiques nationales, puisqu'une fois qu'on a voté la loi, comme vous le savez, il y a un certain nombre de décrets qui sont publiés pour que
ça
la loi s'applique.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps, et c'est aussi à nous d'aller voir les administrations, les services déconcentrés pour voir comment appliquer et s'assurer d'ailleurs que la loi soit bien appliquée. Donc au contraire, je crois que ça fait partie de notre fonction, et c'est ça qui enrichit le travail de l'exécutif, et l'exécutif nous demande à temps qu'on fasse ce travail-là. Donc je ne le vis pas comme un écartèlement, mais bien au contraire comme étant le cœur de ma fonction.
Oui, mais justement, qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain, qu'est-ce qui ressort lorsque vous rencontrez des gens sur le terrain ou à votre permanence 19 rue de Pathé? Est-ce que c'est l'augmentation de la CSG pour les retraités, la non-revalorisation justement des pensions de retraite, c'est sur des choses concrètes du quotidien que l'on vous interpelle, ou c'est sur d'autres choses?
Alors bien souvent, et c'est vraiment quelque chose que je regrette profondément, on m'interpelle justement sur un certain nombre de polémiques dont j'ai parlé en début d'émission, et ça vraiment je trouve que c'est dommage, puisqu'effectivement je crois qu'il faut qu'on s'attarde aux résultats concrets, pas uniquement. Effectivement, j'ai reçu beaucoup de retraités qui m'ont parlé de la hausse de la CSG, mais moi j'invite tous les citoyens à regarder l'effort énorme qu'on fait en direction du pouvoir d'achat, donc c'est 6 milliards dans ce budget-là, et de regarder très attentivement leur feuille de paie, leur taxe d'habitation, et de faire leurs calculs. Vraiment.
C'est pas encore effectif, c'est pas encore concret.
Alors, il va y avoir plusieurs étapes. 1er octobre pour les cotisations, la suppression des cotisations salariales, la taxe d'habitation dès cet automne. Ensuite, à partir de 2019, il y aura la suppression des cotisations pour le SMIC, des cotisations patronales. Donc, mais j'invite vraiment chacun à faire ce travail-là, à regarder de près, à faire ses calculs, pour qu'il y ait une appréciation objective et qu'on n'entende pas que la colère de ceux pour lesquels il y a eu une moindre augmentation de leur pouvoir d'achat, voire une diminution, comme c'est le cas pour certains, et évidemment pas tous, retraités pour la hausse de la CSG, puisque je rappelle que pour les plus modestes, il n'y a pas de hausse, bien au contraire, et on a même mis en place un relèvement du minimum vieillesse.
RCF Loiret, à Gien, sur le 87.9.
Vous écoutez Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Max Centre, et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Caroline Janvier, députée République En Marche dans la deuxième circonscription du Loiret. Alors, Édouard Philippe Frédéric en a parlé. Il faisait sa rentrée politique à la télévision hier soir sur France 2. Je crois que vous n'avez pas eu le temps de regarder l'émission, mais bien sûr, vous vous êtes informé de ce qui s'y est dit. Qu'est-ce que vous retenez justement des points principaux qui ont été abordés?
Alors, il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés. Moi, les sujets qui m'intéressent plus particulièrement sont par exemple la question de la PMA, donc avec une ouverture sur la possibilité d'un remboursement, puisque je suis vice-présidente de la mission d'information relative à la révision des lois de bioéthique.
Alors justement, on va s'y arrêter deux minutes parce que c'est une question complexe. Vous êtes favorable depuis le départ à l'élargissement de la PMA aux femmes, aux couples de femmes ou aux femmes célibataires?
Tout à fait. Alors, depuis le départ, pas forcément. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je trouve que c'est une question très complexe, et à une question complexe, on ne peut pas avoir une réponse simpliste. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas avoir une réponse trop militante, trop politique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en lice. Et on le sait, ça engage les générations futures. Et bien souvent, on prend conscience plusieurs années, voire des dizaines après, des résultats de ce type de réforme. Donc oui, je suis favorable à l'extension de la PMA aux couples de femmes. Mais j'ai bien conscience qu'il va falloir évaluer de près les effets et construire cette extension, notamment sur les questions de filiation, de remboursement, avec précision. Et ça, c'est tout le débat parlementaire qui permettra de construire ça.
Alors justement, nous sommes sur RCF Loiret et on a entendu sur notre antenne toute la semaine des arguments plutôt contre justement l'ouverture de cette PMA aux couples de femmes, avec cet argument que justement les futurs enfants seraient... d'emblée privé de père. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez entendre, Caroline Janvier ?
Vous qui êtes mère de famille de 3 enfants.
Tout à fait.
Que vous n'avez pas fait toute seule.
Non, effectivement, moi, ma situation personnelle est comment voilà. dire, très classique.
Pour préciser pour nos auditeurs.
Effectivement, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Oui, alors je crois que ça pose en fait une question très complexe et moins simple que ce qu'il y paraît, puisque cela relève à la conception qu'on a du genre. Voilà. En quoi est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont liées et qui ne sont liées qu'à un genre, la notion de père ? Quelles sont les caractéristiques d'un père ? Est-ce qu'il y a une identité masculine et donc une place typiquement et exclusivement masculine dans une famille ? Vous voyez, ça renvoie à quelque chose de... qu'est-ce qu'on entend par père ? Quel rôle doit avoir un père dans une famille ? Est-ce que c'est de travailler ? Est-ce que c'est de s'occuper de ses enfants ? On le sait, la place des pères comme celle des mères a évolué. Et moi, c'est tout à fait le cas dans ma situation personnelle, puisque c'est plus mon mari d'ailleurs qui s'occupe de mes enfants en ce moment. Donc, j'entends cette question-là, mais je crois que c'est intéressant d'aller au bout de ce questionnement-là pour vraiment identifier ce qu'on entend par la place du père.
Autre question qui se pose à propos de la PMA, c'est celle de l'égalité des hommes et des femmes qui pourrait ouvrir ensuite une porte vers la GPA, la gestation pour autrui.
Alors, cette crainte, je l'entends aussi régulièrement, mais elle me semble pas légitime à deux titres. D'un point de vue technique, juridique, et les conseillères d'État qu'on a pu auditionner dans notre mission nous l'ont rappelé, il n'y a pas de discrimination quand on part d'une situation différente. Il y a discrimination quand on part d'une situation identique et qu'il y a un traitement différent. En l'occurrence, entre les femmes et les hommes, les femmes ont la capacité de porter un enfant, elles ont un utérus, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc il n'y a pas de traitement discriminatoire en autorisant la PMA et non la GPA, puisque la situation n'est pas identique. Donc ça, c'est l'approche, pour le coup, très technique. Sur le plan plutôt politique, on le sait, l'ouverture de la GPA serait la porte ouverte à l'utilisation d'une tierce personne qui serait donc la mère porteuse, avec les risques que l'on connaît de marchandisation. Donc là encore, on est dans une situation complètement différente. Et je comprends la crainte de ceux qui disent que en autorisant la PMA, on ira vers une GPA. Mais je crois vraiment qu'il faut être rassuré sur cette question-là. On ne peut pas utiliser l'argument d'équité, d'égalité et de non-discrimination dans ce cas-là.
Frédéric.
Alors, sur RCF Loiret, dans Agora avec Maxent.fr, on aime bien sauter du coq à l'âne, donc on va changer complètement de sujet. J'ai vu cette semaine sur votre Facebook une intervention que vous avez faite sur la chaîne télévisée CNews, où vous vous opposez à l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques pour deux raisons, dites-vous, le mode de vie par la captivité et l'itinérance, qui ne vous semble pas très bonne, et puis une raison pédagogique, utiliser des animaux pour le divertissement n'est pas souhaitable. Alors Caroline Janvier, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du zoo de Beauval ? 1,5 million de visiteurs par an, 300 emplois en haute saison, 150 en basse saison, et puis un succès qui ne se dément pas avec des animaux. Alors certes pas en itinérance, enfin certains sont venus de loin, donc ils ont quand même fait une itinérance, mais des animaux en captivité.
Alors... À titre
différent des cirques, ça ou...
Il y a un parallèle qu'on peut faire, bien entendu, même si les conditions, comme vous le disiez, de captivité ne sont pas les mêmes. Et en l'occurrence, on connaît l'engagement du zoo de Beauval pour des programmes de préservation
de biodiversité. C'est plutôt dans le dessus du panier, effectivement.
Tout à fait. Et dans les pratiques, on le sait, elles sont tout à fait vertueuses. Et c'est plutôt un zoo exemplaire à ces titres-là. Au-delà de ça, encore une fois sur le principe, effectivement, et là à titre tout à fait personnel, je ne trouve pas d'un point de vue pédagogique et même d'un point de vue éthique, la captivité des animaux pour le plaisir, pour la découverte, me semble effectivement pas un très bon message pour les enfants et pas seulement. Il existe, et de plus en plus, des réserves naturelles avec des possibilités de faire des safaris en petit train, ou donc pour les enfants et comme pour les adultes, de se promener dans un espace, pas sauvage, mais de superficie importante, où on voit les animaux qui évoluent en liberté. Et ça, je trouve que ce sont des projets tout à fait intéressants.
Vous souhaitiez revenir sur les affaires de pédophilie dans l'Église. Là, on saute encore
du coq à l'âne. Ça fait partie des sujets d'actualité qui secouent le Loiret aussi. Hein. Le 30 octobre prochain, l'ancien évêque du Loiret, Monseigneur Faure, et le père Pierre de Castellet comparaîtront au tribunal correctionnel, hein, pour l'un pour abus sexuels sur mineurs de 15 ans et l'autre, Monseigneur Faure, pour non-dénonciation. Hein. Ils encourent des peines de prison et des amendes assez fortes. Tout cela dans un contexte plus global. Hein. On a appris cette semaine que 3677 mineurs avaient été agressés en Allemagne par plus de 1600 clercs, hein, pendant presque 60 ans. En Australie, quasiment pareil. Aux États-Unis, cet été, en Pennsylvanie, c'était 1000 enfants abusés par au moins 300 prêtres pendant plusieurs décennies.
En France, il y a l'affaire
Prena. C'est un phénomène mondial. C'est très dur. Une association lyonnaise qui s'appelle La Parole Libérée, qui a fait éclater les affaires à Lyon avec Monseigneur Barbarin et le père Prena, etc., appelle à une commission parlementaire, et puis Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, hein, ancien évêque auxiliaire de Lyon qui est maintenant à Reims, demande lui un rapport complet en se faisant aider pour cela de personnes extérieures. L'association La Parole Libérée met carrément les pieds dans le plat en disant il faut une commission parlementaire pour obliger l'Église à un état des lieux, parce que ça suffit, c'est plus possible. Et c'est ce qui a été fait dans d'autres pays, hein, en Allemagne, en Australie, pour faire venir tous ces chiffres, pour qu'on sache exactement. Vous êtes parlementaire, est-ce que vous êtes favorable à une commission parlementaire sur ces affaires de pédophilie pour faire un état des lieux dans l'Église de France?
Pourquoi pas?
Vous avez été sollicité, hein, les parlementaires ont déjà été sollicités, nous disent les responsables de l'association La Parole Libérée, mais pour l'instant, no comment.
Alors, j'ai pas souvenir d'avoir été sollicité directement. Maintenant, je trouve que l'idée est intéressante, puisque je crois, même pour l'Église, elle a tout intérêt à être la plus transparente possible pour objectiver cette petite musique et cette espèce de climat de suspicion qui est délétère. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à des choses très, très claires en évaluant précisément le nombre de personnes, la façon dont ça a été géré, les condamnations qui doivent et qui n'ont peut-être pas été mises en place. Donc je crois qu'on a tout intérêt à effectivement être le plus transparent possible sur cette question-là. Donc je trouve que cette initiative est intéressante. Après, comme vous le savez, les commissions parlementaires peuvent être, les commissions d'enquête peuvent être menées de différentes façons selon l'objectif, le cadre. Donc il faut, à mon avis, que ce soit un cadre qui soit pas trop politisé, voilà, avec un vrai objectif de transparence.
Pardon, je rebondis, c'est presque une façon de botter en touche. Il s'agit d'abus sexuels sur des enfants, là. Est-ce que on a bien fait une enquête parlementaire? Les sénateurs ont fait une commission avec Benalla. Bon, les affaires sont graves aussi, mais enfin, c'est pas aussi grave que des abus sexuels. Là, on dépasse le clivage politique dans ces cas-là. Là.
Eh bien, pas toujours, malheureusement. Comme par exemple, dans le cas de la commission au Sénat sur l'affaire Benalla, il y a un certain nombre de... par exemple, l'audition de Benalla, alors même qu'il était, qu'il faisait l'objet d'une enquête. C'est typiquement, à mon avis, une audition qui était très politisée, puisque ça brouille un peu le message. On a trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire qui a pour objectif d'éclairer les faits et de les qualifier. Et dans ce cadre-là, la façon dont ça a été conduit, ça me semble très politique. Voilà. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Jean-Pierre Sueur, par exemple, que je croise très souvent.
Sénateur du Loiret qui était co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire du Sénat.
Voilà, on le sait sur le plan politique, la façon dont cette commission et dont ces travaux ont pu permettre aussi à l'opposition d'envoyer un message sur notamment la façon de gouverner du président, d'instaurer presque, alors que cela ne relève pas des missions du Parlement, une forme de contrôle de l'Élysée, alors qu'on le sait, seul le gouvernement est responsable face aux parlementaires.
Vous nous dites que sur les affaires de pédophilie, on pourrait avoir les mêmes risques?
De politisation.
Il y a toujours un risque de politisation, et ça fait seulement 15 mois que je suis élue, mais effectivement, je suis bien souvent assez déçue du caractère politique d'un certain nombre de démarches, et je crois qu'on a tout intérêt à ne pas aller dans cette direction, même si ce travail de transparence est tout à fait nécessaire.
RCF Loiret, à Orléans, sur le 91.2.
C'est toujours Agora sur RCF Loiret. Nous sommes aujourd'hui en compagnie avec Max Centre de Caroline Janvier, députée République En Marche dans la deuxième circonscription du Loiret. Alors, leur tourne, Caroline Janvier, j'aimerais que vous nous disiez quand même en deux mots sur quelles affaires vous travaillez actuellement au sein de la commission des affaires sociales de l'Assemblée, parce qu'effectivement, il y a ce que l'on peut voir dans l'hémicycle et puis il y a le travail plus discret en commission, plus à l'ombre.
Alors, dans la commission des affaires sociales, nous avons beaucoup de sujets en cours. Donc, il y a eu le lancement du plan pauvreté, du plan santé, qui va se traduire de façon budgétaire dans le cadre du PLFSS, qui est le financement, le budget de la sécurité sociale. Donc, nous travaillons sur des mesures. Je fais partie d'un petit groupe de travail aux côtés de Thomas Meynier et Olivier Véran pour orchestrer le travail de tous les députés du groupe sur ce PLFSS. Donc ça c'est un travail qui va avoir lieu à l'automne.
C'est quoi les priorités ?
Les priorités, c'est de mettre l'accent sur les plus faibles avec le relèvement des minima sociaux, l'AAH, le minimum vieillesse. Et c'est de privilégier, d'avoir comme valeur centrale le travail. Et donc que le travail paie mieux, avec par exemple la suppression des cotisations sociales, et qu'on ne fasse pas porter le financement de notre modèle social sur les seuls travailleurs, ce qui était le cas jusqu'à présent, et c'est ce qui explique l'augmentation de la CSG corrélative à la baisse des cotisations. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une assiette plus large de financement de notre modèle social. Ça, c'est le cœur du PLFSS, avec aussi beaucoup de mesures qui ont été annoncées par le président dans le cadre du plan santé. Un autre sujet très important, et vous l'avez déjà évoqué, c'est la question évidemment de la réforme des lois de bioéthique. Comme je suis vice-présidente de cette mission, nous avons en ce moment beaucoup d'auditions. Nous recevions hier les francs-maçons, nous recevons des associations de représentants d'usagers, des représentants du culte. Donc ça, c'est aussi un travail important, puisqu'il nous permet d'avoir un débat apaisé, un peu en amont des échanges qui auront lieu dans l'hémicycle.
On va peut-être passer au municipal, oui, parce voilà, que l'heure tourne, Frédéric.
Un mot sur la politique locale orléano-orléanaise. Vous avez dit lors de votre conférence de presse de rentrée que Olivier Carré, voilà son nom m'échappait d'un seul coup, ne prenait pas le chemin d'un programme municipal et métropolitain sur des priorités qui étaient les siennes. Les priorités, ce ne sont pas forcément les grands équipements, disiez-vous. Vous entendiez par là le projet Comet.
Oui, estimé à 110 millions d'euros.
Voilà, vous disiez, par exemple, le quotidien, ce sont aussi les transports, une politique qui n'est pas satisfaisante. Et vous étiez pour la gratuité dans les transports en commun à Orléans. Alors, on sait que c'est un débat qui agite beaucoup les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas toute la démocratie en France. Tout le monde ne suit pas avidement les politiques locaux sur les réseaux sociaux. Mais enfin, quand même, la gratuité des transports, on en parle. Donc, vous êtes toujours favorable à ça. Et comment est-ce que ça peut se mettre en place ? Est-ce que c'est uniquement ça qui peut inciter les gens à prendre les transports ?
Alors, je vous invite pour en échanger à notre réunion publique de ce soir donc sur cette question de la gratuité, avec notamment Richard Ramos, Charles-Éric Lemaignan. Donc, on évoquera toutes les pistes.
Alors, ce sera où et à quelle heure ?
C'est à 19h et je regarde mon agenda en vous parlant.
C'est à la Cigogne, c'est à 20h, je crois. Salle de la Cigogne dans le quartier Saint-Marceau, c'est
d'accord.
Ça ?
Oui, c'est ça.
On rappellera sur le site internet le lieu exact, voilà.
Voilà, mais vraiment c'est important que les citoyens, que tout le monde vienne participer, puisque l'idée c'est justement d'ouvrir le débat sur cette question. Ce n'est pas à moi, élu En Marche, de dire il faut faire la gratuité. C'était une hypothèse que je proposais, une hypothèse de travail, sachant qu'on sait bien que la gratuité à elle seule ne résout pas le problème de la circulation des voitures en ville et donc la réduction des gaz à effet de serre. Mais je crois qu'il faut qu'on se pose ces questions de mobilité de façon plus large d'ailleurs. Et ce soir sera l'occasion d'en échanger.
C'est quoi ? C'est une offre plus qualitative, avec un cadencement meilleur, avec des trams et des bus plus tôt le matin, plus tard le soir ? Parce que par exemple, si j'embauche à 5h du matin, il faut que j'ai un tramway ou un bus qui m'y emmène, sinon je prends ma voiture. Si je reviens de Paris ou de n'importe où ailleurs, que j'arrive à la gare à 22h30, j'attends 3 quarts d'heure le tram, forcément, je vais pas être incité à le prendre. Est-ce que c'est des trams plus confortables, avec moins d'incivilité ? Alors ça, c'est pas forcément la gratuité qui peut empêcher ça. Mais est-ce que c'est tout ça ou d'autres davantage encore ?
Tout à fait. Il y a beaucoup de critères et donc le prix n'est pas le seul et absolument pas le critère majoritaire dans le choix d'opter pour un transport collectif. Donc parmi ceux que vous avez cités, le confort, les horaires, la fréquence. Donc il y a beaucoup de critères qui permettent un report modal. Le fait que, par exemple, des automobilistes abandonnent la voiture pour utiliser les transports en commun. Maintenant, on le sait parfaitement avec les expériences qui ont été menées ailleurs, le fait de mettre en place la gratuité, ça remplit déjà d'autres objectifs que celui de la protection de l'environnement. Ça permet à certains publics d'avoir une mobilité plus importante. Je pense par exemple, là, en l'occurrence, aux étudiants de la Source qui pourraient venir plus facilement en centre-ville et donc redynamiser aussi le centre-ville. Ça permet évidemment aux publics les plus défavorisés d'avoir accès plus facilement à la mobilité. Et sur le plan, pour le coup, environnemental, il faut effectivement qu'il y ait des mesures de limitation de la circulation des voitures en centre-ville, avec par exemple moins de places de parking, places de parking plus chères, des limitations de vitesse. Donc c'est toutes ces mesures qui peuvent permettre d'atteindre là encore des objectifs qui peuvent être très différents.
Ça veut dire qu'il y aura un candidat à La République En Marche, quoi qu'il arrive, au municipal dans 18 mois à Orléans ?
On aura de toute façon une liste et un projet En Marche, avec les valeurs d'En Marche. Et parmi lesquelles la plus importante me semble celui du renouvellement, le renouvellement des pratiques, le renouvellement des visages. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de construire un projet de façon très pragmatique, en écoutant les Orléanais, en mettant en place ce type de réunion de public et ce type de débat. Mais surtout, l'objectif, c'est que d'autres gens qui ne s'y intéressaient pas à leur ville ou qui n'osaient pas s'y intéresser nous rejoignent, travaillent avec nous, constituent une liste avec nous. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est celle du renouvellement des pratiques et des visages. Et je crois que c'est l'objectif principal de ces élections.
Ça veut dire qu'Olivier Carré n'est pas, pour vous, pour l'instant, Macron compatible ?
Ou pas assez ?
Marcheur compatible ?
Pour le moment, c'est la question de la tête de liste n'est vraiment pas, n'est à mon avis vraiment pas centrale. Il faut déjà qu'on soit en capacité de travailler sur un projet.
Lui, il doit se la poser quand même.
Mais tout à fait. Et c'est tout à fait
c'est
légitime.
C'est sûr, il se la pose.
Bien sûr,
oui, il a dit qu'il
sûr.
Était candidat ouais. avec. Il fait même un ticket avec Serge Grouard. C'est aussi pour ça que vous estimez que.
Le renouvellement des têtes, quand vous parlez du renouvellement des têtes, vous pensez à celle-là ?
Quand je parle renouvellement de têtes, je parle d'une stratégie qui ne soit pas politicienne avec des arrangements entre figures politiques pour mettre en place avant même d'avoir consulté les Orléanais et la société civile.
Voilà, on aura bien sûr l'occasion de reparler des municipales. C'est la fin de cet Agora. Merci beaucoup Caroline Janvier d'être venue au micro de RCF Loiret. Merci Frédéric Sabourin de Maxentre. Et cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr ou à regarder. Non, on ne la regarde plus. On la retrouve également sur le site de Maxentre et on tape maxentre.fr. Et merci à Wade Selmy qui était aujourd'hui aux manettes. Bon appétit.